Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Chapitre 19. Journal de Jonathan Harker. Suite. La lumière des petites lampes faisait apparaître des objets aux formes bizarres, tandis que leurs rayons se croisaient ou se superposaient les uns aux autres, ou que nos propres corps projetaient de grandes ombres. Il m'était impossible d'écarter le sentiment que nous n'étions pas seuls. Sans doute était-ce le souvenir des jours terribles que j'avais vécus en Transylvanie qui me dominait si impérieusement à cause de ce lieu sinistre. Pourtant, je pense que nous éprouvions tous la même inquiétude, car je remarquais que mes compagnons, comme moi-même, se retournaient au moindre bruit ou lorsqu'une ombre nouvelle se dessinait sur les murs. Partout, la couche de poussière était épaisse. Sur le plancher, elle semblait haute de plusieurs pouces, excepté là où il y avait de récentes traces de pas. En baissant ma lampe, je vis la marque de gros clous de semelle. Les murs aussi étaient couverts de poussière. On eût presque dit une sorte de duvet sale. Dans les coins pendaient d'énormes toiles d'araignée sur lesquelles la poussière, toujours la poussière, s'était amassée en sorte qu'elle ressemblait à de vieux lambeaux d'étoffe déchirés par le poids de toute cette crasse. Sur une table du corridor était posé un gros trousseau de clés dont chacune portait une étiquette jaunie par le temps. On voyait qu'on s'en était servi à plusieurs reprises, car il y avait plusieurs petits sillons dans la couche de poussière qui recouvrait la table, semblables d'ailleurs à ceux qui apparurent lorsque le professeur prit le trousseau de clés. Il se tourna vers moi et me dit « Vous connaissez cette maison, Jonathan. Vous en possédez les plans, ou tout du moins une copie, que vous avez sans doute étudiée attentivement. Par où gagne-t-on la chapelle ?» Je croyais bien savoir où elle se trouvait, bien que lors de ma première visite, je n'eusse pas pu y entrer. Je montrai donc le chemin à mes compagnons, et après avoir suivi quelques couloirs, nous arrivâmes devant une porte de chêne, basse et voûtée. « Nous y sommes, » dit le professeur qui, à la lueur de sa lampe, examinait une copie du plan qui m'avait servi au moment de l'achat de la maison. Après avoir essayé quelques clés du trousseau, nous trouvâmes celle qui convenait et nous ouvrîmes la porte. Dès cet instant, nous nous attendîmes à quelque chose de très désagréable, car par l'entrebâillement s'exhalait un air malodorant, et aucun de nous ne pensait respirer à l'intérieur une odeur qui fût à tel point nauséabonde. Excepté moi, personne de notre petit groupe n'avait encore approché le comte, et pour ma part, lorsque je l'avais vu, ou bien il était dans ses appartements et en période de jeûne, ou bien bouffi de sang frais dans un bâtiment en ruine, presque à ciel ouvert. Mais l'endroit où nous étions parvenus était étroit et entièrement fermé. Fermé depuis combien de temps? Et l'air en était vicié. On y sentait la terre, et l'on avait de plus la sensation que des miasmes s'en dégageaient. Quant à l'odeur même, comment expliquer ce qu'elle était réellement? Non seulement il y entrait, semblait-il, tous les maux capables de donner la mort et l'âcreté du sang, mais on eût dit que la corruption elle-même s'était corrompue. Y penser me rend encore malade. Chaque expiration du monstre semblait être restée attachée aux pierres de cette chapelle. En d'autres circonstances, cela eût suffi à mettre fin à notre entreprise. Mais le but que nous nous étions proposé était d'une telle importance, d'une telle gravité, que nous nous sentions mus par une force qui nous élevait au-dessus de toute considération d'ordre simplement physique. Après un mouvement de recul involontaire, mais certes naturel, chacun de nous se mit au travail, comme si ce lieu répugnant avait été un parterre de roses. « Avant tout, dit le professeur, il faut voir combien il reste de caisses. Nous allons examiner tous les trous, tous les recoins, et chercher quelque indice qui puisse nous apprendre où l'on a emporté les autres. » Nous eûmes rapidement compté les caisses qui se trouvaient là, car, de fait, c'étaient des coffres énormes. Impossible de se tromper. Des 50, il en restait seulement 29. À un moment donné, je tressaillis de peur, car voyant Lord Godalming se retourner brusquement pour regarder par la porte restée entrouverte, ce qui se passait dans le couloir dont l'obscurité était complète, je regardais, moi aussi. À l'instant, j'eus l'impression que mon cœur cessait de battre. Il m'avait semblé voir, se détachant dans l'ombre, les yeux flamboyants du comte, son nez aquilin, ses lèvres rouges et la pâleur effrayante du reste de son visage. Rien qu'un instant, en vérité. Lord Godalming murmura. J'avais cru voir un visage, mais ce n'était que des ombres. Et il reprit tout de suite ses recherches. Mais je dirigeai ma lampe vers la porte et retournai dans le couloir. Je n'y vis absolument personne. Puisqu'il n'y avait là ni recoin, ni autre porte, ni ouverture d'aucune espèce, mais seulement les murs, fort épais, je dus reconnaître qu'il n'existait pas de cachette, même pour lui. La peur m'avait rendu victime de mon imagination. Je ne dis rien à mes compagnons. Quelques minutes plus tard, Maurice, qui était en train d'examiner un coin de la chapelle, s'en éloigna brusquement. Tous, nous le suivîmes des yeux. Sans aucun doute, la nervosité nous gagnait. Nous aperçûmes une masse phosphorescente qui scintillait comme des étoiles. D'instinct, nous reculâmes, et bientôt, la chapelle fut remplie de rats. Nous restâmes un moment véritablement effrayés. Seul, Lord Godalming gardait son sang-froid et semblait s'être attendu à pareille chose. Se précipitant vers la lourde porte de chêne, il tourna la clé dans la serrure, fit glisser le verrou et ouvrit tout grand les battants. Puis, tirant de sa poche le petit sifflet d'argent, il siffla. À cet appel, les chiens qui se trouvaient derrière l'établissement du docteur Seward répondirent par des aboiements et pas plus d'une minute plus tard, trois terriers tournèrent le coin de la maison. Inconsciemment, à nouveau, nous reculâmes, et c'est alors que je remarquai que la poussière, ici près de la porte, avait été foulée. Les caisses qui manquaient, c'était donc par ici qu'on les avait emportées. Mais pendant la minute qui venait de s'écouler, d'autres rats étaient venus se joindre au premier, de sorte que nous avions devant nous un spectacle incroyable. Ils grouillaient dans toute la chapelle, si bien qu'à la lueur de nos lampes, éclairant leurs petits corps sombres en perpétuelle agitation et leurs vilains yeux brillants, l'intérieur de la chapelle ressemblait à une terrasse couverte de lucioles. Les chiens, se précipitant, allaient entrer lorsque, sur le seuil, ils s'arrêtèrent soudain, grondèrent, puis, levant le museau tous en même temps, se mirent à hurler à la mort. Les rats arrivaient maintenant par milliers. Quant à nous, nous sortîmes, nous tenant près de la porte. Lord Godalming prit l'un des chiens dans ses bras et l'introduisit dans la chapelle. À l'instant où ses pattes touchèrent le plancher, le terrier parut reprendre courage et donna la chasse à ses adversaires naturels. Ceux-ci s'enfuirent si vite qu'il eut à peine le temps d'en tuer une vingtaine, et que les deux autres chiens, entrés de la même manière, cherchèrent en vain leur proie, à part quelques rats qu'ils purent encore attraper. Les rats disparus, nous eûmes l'impression qu'une présence maligne s'était retirée. Les chiens couraient çà et là, la queue frétillante, et aboyaient, cette fois, joyeusement, tandis qu'ils jouaient de façon assez cruelle avec les cadavres de leurs victimes. Et nous aussi, nous nous sentions animés comme d'un nouveau courage. Était-ce que l'atmosphère empoisonnée s'était trouvée quelque peu purifiée, une fois la porte de la chapelle ouverte? Ou était-ce nous qui éprouvions semblable soulagement maintenant que nous n'étions plus enfermés? Je ne sais. Mais assurément, la menace qui pesait sur nous sembla nous quitter, tel un vêtement dont on se débarrasse. Et notre présence en ce lieu perdit un peu de son caractère sinistre, sans que pour autant notre détermination faiblît le moins du monde. Nous refermâmes la porte, à clé, au verrou et à la chaîne, et notre fouille de la maison commença. Nous n'y vîmes vraiment rien de particulier, sinon partout de la poussière en quantité extraordinaire. Et cette couche de poussière, dans toutes les pièces, était intacte, si l'on excepte la trace qui avait imprimé mes pas lors de ma première visite. À aucun moment, les chiens ne manifestèrent la moindre inquiétude, et même, lorsque nous revînmes dans la chapelle, ils allèrent d'un côté et de l'autre, l'air aussi ravi que s'ils avaient chassé le lapin en plein bois par une belle journée d'été. Le jour commençait à poindre lorsque nous regagnâmes la porte d'entrée. La clé de cette porte, le docteur Van Helsing l'avait détachée du trousseau. Il referma convenablement la porte derrière lui et mit la clé dans sa poche. « Eh bien, dit-il. Nos recherches cette nuit se sont passées à merveille. Nous n'avons pas dû faire face au danger que je redoutais. Et cependant, nous savons maintenant combien il manque de caisses. Mais ce dont je me réjouis le plus, c'est que ce premier pas, peut-être le plus difficile, le plus périlleux, nous l'avons accompli sans notre si chère Madame Mina, alors que toutes ses heures de veille et de sommeil eussent désormais et à jamais été troublées si, comme nous, elle avait vu ce spectacle, entendu ces bruits, respiré ces odeurs. De plus, ces recherches, si l'on peut toutefois conclure à partir d'un cas particulier, nous ont prouvé ceci. Les affreuses bêtes qui sont aux ordres du comte n'obéissent pourtant pas à son pouvoir purement spirituel. Car, voyez, ces rats qui arrivent en grand nombre dès qu'il les appelle, comme du haut de son château il appelait les loups quand vous vouliez partir, Jonathan, ces rats se sont enfuis dans la plus grande confusion, à la seule vue de chiens aussi petits que des terriers. Nous ne sommes qu'au début de nos nouvelles épreuves, il est vrai. Ce monstre, ce n'est assurément pas la seule et dernière fois cette nuit qu'il a exercé son pouvoir sur le monde animal. Il n'a fait que disparaître momentanément. Au moins, nous a-t-il déjà donné l'occasion de crier « échec » dans cette terrible partie dont l'enjeu n'est rien moins que des âmes humaines. Et maintenant, rentrons. Il va faire jour, et nous pouvons être satisfaits de notre première nuit de travail. Quand nous rentrâmes, on n'entendait rien dans l'établissement endormi, sinon les cris de quelques malheureux dans une salle au bout du couloir, et des gémissements venant de la chambre de Renfield. Sans doute le pauvre homme se torturait inutilement l'esprit, et ce qui est fréquent chez ceux qui souffrent de troubles mentaux. Je suis entrée dans notre chambre sur la pointe des pieds. Mina dormait, respirant si lentement que je dus me pencher sur elle pour entendre son souffle. Elle est plus pâle que d'habitude, pourvu que la réunion d'hier soir ne l'ait pas trop bouleversée. Je suis si heureux de savoir qu'elle ne participera plus à nos recherches, ni même à nos délibérations. À entendre certaines choses, elle pourrait s'effrayer. Et pourtant, les lui cacher pourraient lui faire encore plus de mal si jamais elle nous soupçonne de vouloir lui taire ceci ou cela. À l'avenir, il faut donc qu'elle ne se doute nullement de nos diverses décisions, qu'elle ne sache absolument rien de notre travail, au moins jusqu'au moment où nous serons à même de lui annoncer que la Terre est définitivement débarrassée d'un monstre redoutable. J'avoue qu'il me sera difficile de garder le silence, alors que nous avions l'habitude de nous confier entièrement l'un à l'autre. Mais je tiendrai bon, et quand elle se réveillera, je ne lui dirai rien de ce que nous avons vu cette nuit. Si elle me questionne à ce sujet, je refuserai de lui répondre. Je vais m'étendre sur le sofa, afin de ne pas la déranger dans son sommeil. 1er octobre, plus tard. Sans doute était-il normal que nous dormions tous jusqu'à une heure avancée de la matinée, car la journée précédente avait été fort fatigante et la nuit, nous n'avions pas eu un moment de repos. Mina elle-même devait se sentir éreintée, car malgré l'heure tardive, c'est moi qui, éveillé le premier, dus l'appeler 2 ou 3 fois avant qu'elle ne s'éveille à son tour. Elle était si profondément endormie que lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle resta quelques secondes sans me reconnaître. Elle me regardait, l'air tout à la fois interdit et effrayé, comme quelqu'un qui sort d'un cauchemar. Comme elle se plaignait d'être fatiguée, je lui conseillais de rester encore un peu au lit. Nous savons donc maintenant que 21 caisses ont disparu. Si on est venu chercher certaines d'entre elles, il sera assez facile de les retrouver. Évidemment, cela simplifierait de beaucoup notre travail, et plus tôt nous les aurons retrouvées, mieux ce sera. J'irai voir aujourd'hui Thomas Snelling. Journal du docteur Seward. 1er octobre. Il était près de midi lorsque je m'éveillais. Le professeur marchait dans ma chambre. Son entrain était visible, un entrain qui ne lui est pas coutumier. Sans aucun doute, ce que nous avions découvert la nuit lui avait ôté de l'esprit un grand souci. Il commença par me parler un peu de cette aventure, puis il me déclara : « Votre malade m'intéresse beaucoup. Pourrais-je encore aller le voir aujourd'hui avec vous ? Ou, si vous êtes trop occupé, peut-être me laisserez-vous aller le voir seul. L'expérience est neuve pour moi, de rencontrer un fou qui parle philosophie et raisonne avec justesse. » En effet, j'avais à travailler. Je le priais donc de bien vouloir se rendre seul chez Renfield. Je ne le ferai pas attendre. J'appelai un surveillant à qui je donnai les instructions nécessaires et le professeur l'accompagna avant qu'il ne fût sorti de ma chambre. Toutefois, je le mis en garde. « Mais, me répondit-il, je veux lui parler de lui-même et de sa manie qui le pousse à manger des êtres vivants. J'ai lu hier dans votre journal qu'il en avait entretenu Madame Mina. Pourquoi souriez-vous, mon cher John ?»« Excusez-moi, mais la réponse à votre question se trouve ici même, » dis-je en posant la main sur les feuilles dactylographiées. Lorsque notre fou raisonnable et cultivé a parlé de l'habitude qu'il avait naguère de manger des êtres vivants, en réalité, sa bouche était encore souillée par les araignées et les mouches qu'il venait de manger, juste avant que Madame Harker n'entrât dans sa chambre. Van Helsing sourit à son tour. « Vous avez bonne mémoire, mon ami. J'aurais dû me souvenir de ce détail, moi aussi. Et cependant, ce sont de semblables failles dans la pensée et la mémoire qui rendent si fascinante l'étude des maladies mentales. Peut-être apprendrai-je davantage au sujet de la folie par ce dément que je n'en apprendrai des enseignements du plus sage des hommes. Qui sait ? Sur ce, j'allai dans mon bureau et me mis au travail. Le temps m'avait paru fort court et pourtant déjà Van Helsing entr'ouvrait ma porte et me demandait « Je vous dérange ?»« Pas du tout, » répondis-je. « Entrez. J'ai terminé ce que j'avais à faire et maintenant je puis vous accompagner si vous le désirez. » « Inutile, je l'ai vu. » « Eh bien, je crains qu'il n'ait pas une très bonne opinion de moi. Notre entretien a été bref. Quand je suis entrée dans sa chambre, il était assis au milieu de la pièce, sur un tabouret, les coudes sur les genoux, le menton dans les mains et un sombre mécontentement peint sur le visage. Je m'adressai à lui d'un ton aussi gai, mais en même temps aussi déférent que possible. Il ne me répondit pas. « Ne me reconnaissez-vous pas ? » fis-je. Sa réplique ne fut pas des plus rassurantes. « Si, je vous reconnais. Vous êtes ce vieux niais de Van Helsing. Je voudrais que vous alliez vous promener ailleurs, vous et votre étude idiote sur le cerveau. Au diable, les Hollandais imbéciles !» Il ne dit pas un mot de plus, et il reprit son attitude morose, ignorant parfaitement ma présence. L'occasion m'a donc échappé d'apprendre quelque chose de la bouche de ce fou si intelligent. Pour me consoler, je vais aller un peu bavarder avec la douce Madame Mina. « Mon cher John, comment vous dire ma joie de la savoir à l'abri des souffrances et des dangers qui nous attendent encore ? Son aide nous manquera sans doute, mais il vaut mieux agir de la sorte. » « Je suis entièrement d'accord avec vous, » dis-je. « Il est préférable que Madame Harker ne soit plus mêlée à tout ceci. La situation est déjà très périlleuse pour nous, des hommes qui pourtant avons connu maintes périodes difficiles au cours de notre existence. Si cette jeune femme avait continué à travailler avec nous, sa santé, finalement, aurait pu en être ruinée. Van Helsing m'a donc quitté pour rejoindre M. Harker et Mme Harker. Quincy et Hart sont allés à la recherche des caisses contenant la terre, ou tout au moins de leurs pistes. Nous devons nous réunir ce soir. Journal de Mina Harker, 1er octobre. C'est une impression assez étrange pour moi que d'être tenue dans l'ignorance de tout, comme je le suis aujourd'hui. Pendant tant d'années, Jonathan m'a témoigné une telle confiance, et il m'a fallu le voir aujourd'hui éviter certains sujets de conversation les plus importants de tous. Ce matin, j'ai dormi tard, car la journée d'hier m'avait fort fatiguée. Jonathan aussi ne s'est réveillé que peu avant midi, mais il fut le premier à se réveiller. Avant de sortir, il m'a parlé plus doucement, plus tendrement que jamais, mais il n'a pas dit un seul mot de leur visite à la maison du comte. Et pourtant, il devait savoir combien j'étais anxieuse à ce sujet. Pauvre chéri, ce silence qu'il gardait, sans doute était-il encore plus douloureux pour lui que pour moi. Tous, ils sont d'accord pour que je ne participe plus à cette affaire effroyable, et j'ai acquiescé. Mais penser que mon mari a des secrets pour moi... Et voilà que je pleure comme une petite sotte, alors que je sais que c'est son grand amour pour moi qui l'oblige à se taire, et que les autres également, ses amis si généreux, ne cherchent qu'à assurer mon repos et ma sécurité. Les larmes m'ont soulagée. Et puis, je me dis qu'un jour, Jonathan me racontera tout. De peur qu'il ne pense jamais, ne fût-ce qu'un instant, que je lui cache la moindre chose, je tiendrai mon journal, comme d'habitude. Et s'il a douté de ma confiance, je le lui ferai lire, ses yeux si chers liront chacune de mes pensées. Aujourd'hui, je ne sais pourquoi, je me sens triste et découragée. Je suppose que c'est le contre-coup de toutes ces émotions. Hier soir, je me suis mise au lit dès que Jonathan et les autres furent sortis, simplement parce qu'ils me l'avaient conseillé. Je n'avais pas sommeil, et j'étais terriblement inquiète. Je pensais à tout ce qui s'était passé depuis le jour où Jonathan était venu me voir pour la première fois à Londres. Tout cela ressemble à une horrible tragédie où le destin avance inexorablement vers son but. Chacune de nos actions, même si nous l'avons accomplie dans l'intention la meilleure, semble avoir eu les conséquences les plus déplorables. Si je n'étais pas allée à Whitby, peut-être la pauvre chère Lucie serait-elle encore avec nous. Avant mon arrivée, elle ne montait jamais au cimetière. Et si elle n'était pas venue avec moi dans la journée, elle n'y serait pas retournée la nuit dans une crise de somnambulisme, et donc ce monstre n'aurait pas pu lui faire tout le mal qu'il lui a fait. Oh, pourquoi suis-je allée à Whitby? Bon, voilà que je me remets à pleurer. Je me demande ce qui m'arrive aujourd'hui. Jonathan ne doit pas savoir que j'ai pleuré deux fois déjà ce matin, moi qui ne me suis jamais attendrie sur mon sort, et qui n'ai jamais versé une larme à cause de mon chéri. S'il s'en apercevait, il se tourmenterait trop. Si même je me sens triste à un moment où nous sommes ensemble, je n'en laisserai rien paraître. Je pense que c'est là l'une des choses que nous avons à apprendre, nous, les femmes. Je ne sais pas très bien à quel moment je me suis endormie hier soir. Je me souviens d'avoir entendu soudain les aboiements des chiens, ainsi que mille petits cris étranges qui venaient de la chambre de M. Renfield, laquelle se trouve sous la mienne. Puis, il se fit partout un silence si profond que j'en éprouvais quelque inquiétude. Je me levai pour aller regarder par la fenêtre. L'obscurité, ajoutée à ce lourd silence, semblait donner à la nuit un mystère qu'accentuaient encore les ombres projetées dans le clair de lune. Rien ne bougeait. Tout était lugubre et immobile comme la mort ou le destin, si bien que lorsqu'une bande de brouillard blanc se déplaça à partir du gazon, avec une lenteur qui la rendait presque imperceptible, vers la maison, on eût dit qu'elle seule vivait. Cette sorte de digression dans mes pensées me fit sans doute du bien, car lorsque je me remis au lit, je sentis que je m'assoupissais peu à peu. Je restais étendu, très calme. Cependant, je ne parvenais pas à m'endormir tout à fait. Je me relevais, allais de nouveau regarder par la fenêtre. Le brouillard s'étendait et maintenant touchait presque la maison. Je le voyais, épais, contre le mur, comme s'il allait monter jusqu'au bord des fenêtres. Le pauvre Renfield hurlait à présent, et sans saisir pourtant un mot de ce qu'il disait, à son ton, je devinais qu'il lançait des supplications passionnées. Puis j'eus l'impression qu'on se battait. Le surveillant, je m'en rendis compte, venait d'entrer dans sa chambre, et ils en étaient venus aux mains. Je fus si effrayée que je retournai me glisser dans mon lit, me couvris la tête de mes couvertures et me bouchai les oreilles. À ce moment-là, je n'avais plus du tout sommeil, du moins je le croyais. Pourtant, j'ai dû m'endormir peu après, car à part certains rêves, je ne me rappelle rien de ce qui s'est passé jusqu'au matin, lorsque Jonathan m'a éveillée. Il m'a fallu un moment et un certain effort, je crois, pour comprendre où je me trouvais et que c'était Jonathan qui se penchait sur moi. Quant à mon rêve, il était singulier, et il montre bien comment nos pensées, conscientes, se prolongent dans nos rêves, ou s'y mêlent confusément. Ce rêve, le voici.